Ok, donc on commence. Chapitre 5, Mishnah 6. D'accord. Loaya Sikrikon, Biyehuda. Il n'y avait pas de Sikrikon, d'accord. Biyehuda, Ayehuda. Alors c'est quoi un Sikrikon? Sikrikon, d'accord. Oui, je ne sais pas comment ils disent en français, mais bon, c'est même en hébreu, ils devaient
dire. Oui, il y a un kamat.
Non, c'est Sikrikon. C'est avec un Sheva. Donc Loaya Sikrikon, Biyehuda. C'est quoi un Sikrikon? Un Sikrikon, c'est un non-juif, d'accord, qui est meurtrier, qui menaçait les juifs pour les tuer, qui vient, il menaçait les juifs pour les tuer, il lui dit, si tu ne me donnes pas ton champ, je te tue. Oh, donc il vient, il le menace, si tu me donnes ton champ, je te tue. Donc, notre Mishnah parle d'un cas de quelqu'un qui a acheté un champ, d'accord, d'un Sikrikon. C'est comme les Chinois. Comme les Chinois...
Un objet de pillage.
Bon, sauf que la vérité, non, sauf que la vérité, les Chinois, ils payent. Les Chinois, ils te forcent à lâcher ton bien, mais ils payent. Le Sikrikon, il paye pas. Le Sikrikon, il dit... Le Sikrikon, il disait comme ça. Il dit, monsieur, je dois vous tuer.
Triade.
Mais si vous voulez que je vous sauve la vie, vous pouvez me donner votre maison.
Ah, c'est gentil.
Ou bien votre champ, et prenez les champs, en général.
Ah, ouais.
Donc, notre Mishnah, elle va parler d'une personne qui a acheté un champ... d'une personne, et il a découvert par la suite que cette personne-là était un Sikrikon. D'accord. Alors le problème qu'on devait savoir maintenant, c'est le premier propriétaire, celui qui s'est fait voler, il dit, bon, le Sikrikon, j'ai peur de lui, mais celui à qui il a vendu, j'ai pas peur. Donc il va, il attaque en justice, il dit, rendez-moi mon champ. Il dit, mais je l'ai pas acheté chez vous, le champ. Moi j'ai payé. Je suis pas sans savoir que c'est un Sikrikon. Donc la Mishnah nous dit comme ça. Loaya Sikrikon Biyehuda Baharuge Amilchama. Le din d'un Sikrikon, qu'on va détailler plus loin dans la Mishnah, n'a pas existé, d'accord, dans Yehuda, donc en Israël, il y a une partie qui s'appelle Yehuda. Donc à l'époque, Bimé Aruge Amilchama, à l'époque où on a eu des gens qui ont été tués dans la guerre. De quelle guerre on parle ici? On parle ici de la guerre de Titus, d'accord, contre Yehuda et contre Jérusalem. Que là, à ce moment-là, il faut savoir que les Juifs étaient à ce moment-là efker. Ils étaient abandonnés, celui qui voulait, il pouvait tuer des juifs. D'accord? Parce que là, à ce moment-là, comme Titus avait déclaré que tous les juifs, on pouvait les mettre à mort. Donc, il y avait des gens qui faisaient justice tout seuls. Des gens qui n'étaient même pas, n'avaient aucun rapport avec Titus, aucun rapport avec son armée. Même pas romain, rien du tout. Il venait et dit, ah, tu me donnes ton champ, je te tue. Et comme il n'y avait plus de loi, et que les juifs n'avaient, ils ne pouvaient pas aller au tribunal, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas de police, il n'y a personne. D'accord? Tout le monde fait ce qu'on veut. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que les gens se sont retrouvés à donner leur champ. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'à cette époque-là, celui qui a acheté d'un Sikrikon, c'est comme si qu'il achetait d'un propriétaire. Ça veut dire qu'après la guerre, comme vous avez dit tout à l'heure, d'accord? Après la guerre, si le propriétaire initial revient chez l'acheteur, il lui dit « Oui, rends-moi mon champ ». Il lui dit, le champ, je ne l'ai pas acheté chez toi, je l'ai acheté chez le Sikrikon. Et le champ, on considère que pendant la guerre, tu l'as abandonné. Et on va prendre beaucoup de choses avec ça. Avec la Shoah aussi, malheureusement. Mais Aruga Amilchama Velar, par contre, une fois qu'est passée la période des Aruga Amilchama, c'est-à-dire une fois qu'est passée la période, donc une fois qu'est passée cette fameuse période dans laquelle tout le monde pouvait être mis à mort, là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on nous dit? Yesh ba Sikrikon, y'a le din de Sikrikon. Donc le din de Sikrikon, on va l'étudier tout de suite. Ça veut dire en d'autres termes, on va prendre un exemple moderne, l'exemple de la Shoah. D'accord? Vous savez très bien que pendant la Shoah, on sait très bien que malheureusement, les Juifs n'avaient plus de propriété. Même les propriétés qu'ils avaient, il n'y avait plus de loi, c'est-à-dire que tous ceux qui voulaient pouvaient les déposséder et ils ne pouvaient rien dire du tout. Il n'y avait plus de loi, il n'y avait personne chez qui se plaindre. Donc on nous apprend la chose suivante.
Personne.
D'accord? Il n'y avait personne chez qui... Oui.
Attends.
Ici-bas, il n'y avait personne chez qui se plaindre. Donc le din est comme ça. Si on a quelqu'un, un Romain par exemple, qui a pris un terrain pendant la guerre, donc il a fait sortir quelqu'un de son terrain, un juif, et pendant la guerre, il revend à une autre personne, un juif ou un non-juif, mais il le revend à une autre personne qui n'est pas censée savoir ce qui s'est passé, ou qui ne veut pas savoir ce qui s'est passé. Ensuite, la guerre passe, et le propriétaire initial veut récupérer son bien. On dit qu'il ne peut pas récupérer son bien. La seule personne vers qui il peut se retourner vers l'État, par exemple, ou vers les Romains, mais pas vers la personne qui a acheté. La personne qui a acheté, il n'y peut rien. Lui, il a acheté un terrain en bonne et due forme. Par contre, si la transaction a été faite après la guerre, donc dans notre exemple, après la Shoah, il dit, bon, ben tiens, je vais vendre le champ, ou je vende le bien, là on dit que la transaction vaut zéro. Comme on va voir tout de suite. L'akar. Ketsad. L'akar misikrikon ve chazar ve l'akar mibalabaït. Micro batel. Donc on dit que donc c'est quoi le din de Sikrikon? Ça veut dire quoi que c'est, qu'est-ce qui, si on a vendu après la guerre, donc le din de Sikrikon s'applique. Donc c'est quoi le din de Sikrikon? Si une personne a acheté un champ d'un Sikrikon, on va lui donner un nom ce Sikrikon, on va l'appeler le
assassin.
Ah, le Titus.
Ouais, c'est pas un bon mot,
assassin. L'époque de Titus.
Ça vient du latin.
Le
Sicaricon. C'était
le droit la droite de la
mort. Non, c'est pas un assassin, c'est quelqu'un qui veut déposséder les gens.
Un mafieux.
Voilà, un mafieux, exactement. Avec.
Non, comment tu connais ça?
Un mafieux.
Hein? Là, c'est...
Un mafieux, c'est une bonne traduction.
Ouais, il n'y a pas forcément tué.
Il ne cherche pas à tuer. Il ne veut pas tuer. Seulement, c'est comme la mafia. Ils vont utiliser la menace de la mort, et ils peuvent mettre à mort. Pour déposséder quelqu'un. Mais ils cherchent pas, les mafieux, ils cherchent pas à tuer les gens.
Oui, parce que ça n'avait qu'un temps. Enfin, l'important, c'est de revendre pour rendre du pognon.
Ils tuent si nécessaire. Mais c'est pas des tueurs.
Ils arrivent à obtenir son
comme les raquettes, voilà, exactement.
Bon, mafieux. Là, vas-y comme ça. Qu'est-ce que c'est?
Dans le milieu intérieur.
Pardon?
Non, parce que ça, c'était pire.
Oui.
C'était approprié parce que les gens ne survenaient pas.
Oui. Mais c'est pas les... Ce que je suis en train de dire, c'est que dans la Shoah, ce qu'on a vu malheureusement, c'est que mis à part le fait que les Allemands ont tué, c'est-à-dire le Wehrmacht, tout ça, bon, ils marchaient mal, à part ça, il y avait des Allemands qui ne faisaient pas partie de l'armée, qui n'adhéraient pas avec l'armée, mais qui, ils ont profité de la pagaille qu'il y avait, pour déposséder des juifs et rentrer dehors où on va vous dénoncer. Bien sûr, c'est ce qu'ils ont fait. D'accord? Et malheureusement, les juifs, ils avaient pas leur mot à dire. C'est vrai qu'il n'y a pas de loi. Il n'y a personne qui se plaint.
Il n'y avait plus personne.
Donc, Ketsad, l'akar misikrikon, vechazar velakar mibalabait. Si une personne, un Israël, un juif, donc a acheté un champ d'un sikrikon, donc du mafieux, vechazar velakar mibalabait. Et ensuite, d'accord, il a racheté le champ, une deuxième fois, du balabaiter, du vrai propriétaire. Micro-battel, la vente est annulée. Très fort,
ouais, c'est deux fois.
Écoutez bonheur. Bien ce qu'on a dit, il a acheté deux fois. Imaginez-vous, il a acheté deux fois son champ. Même s'il a acheté deux fois. Il a acheté une première fois du mafieux, et après il dit, bon, ça se fait pas, je sais que le mafieux, il a volé à quelqu'un. Il est parti voir la personne, il lui dit, je vous rachète votre champ, je vous paye la valeur de votre champ. Il a payé deux fois la valeur du champ. La transaction est quand même annulée. Pourquoi la transaction est annulée? Parce qu'on considère que même si le vrai propriétaire l'a vendu, mais il ne l'a pas vendu de plein gré, il l'a vendu de la peur du mafieux. Il s'est dit oui.
Mais la deuxième fois, il l'a vendu de plein gré.
Non. Parce qu'il a peur.
Mais pourquoi il achète deux fois? S'il a acheté une...
Pour avoir la conscience tranquille, il se dit bon, je sais que le mafieux il a volé à quelqu'un. D'accord.
Il l'a peut-être sous-vendu.
Il a peut-être. Voilà. Je sais que le mafieux.
La transaction est plus pour se tranquilliser.
Pour se tranquilliser. Non, c'est pas que pour se tranquilliser, pour se dire je vais avoir une propriété qui m'appartient. Qu'est-ce qui va se passer après la guerre, ou même avant la fin de la guerre? Le propriétaire du champ peut venir et dit, je veux récupérer mon terrain. Il dit, vous l'avez vendu, mais c'est quoi récupérer? Il dit, non.
Oui, j'avais la pression.
Du Sikrikon. Même si il a payé une deuxième fois, on lui a payé. Ah, bien sûr, il devrait rendre l'argent, ça c'est sûr. D'accord? Donc, Miba la Baït, Vechazar va la carte Sikrikon. Maintenant, si c'est le contraire. Si une personne a d'abord acheté le champ, du balabaït. C'est le cas contraire. Ça veut dire que je vais acheter un champ de quelqu'un. D'abord, je lui achète son champ. Je lui ai payé. Et ensuite, entre-temps, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un Sikrikon qui est venu. D'accord? Et qui a voulu, donc, un mafieux qui est venu, qui a voulu prendre le champ. Là, c'est plus la même chose. D'accord? Parce que là, le mafieux, maintenant, le propriétaire initial, il peut plus dire que je l'ai vendu par peur du mafieux. Parce que le mafieux, il n'était pas là encore. Il est venu par la suite, le mafieux. Donc si, d'abord, je l'ai acheté du propriétaire, et après, il y a un mafieux qui est venu et qui a dit « Ah, j'ai entendu que vous achetez un champ. Je veux aussi ma part dans le gâteau. » Je dis « Bon, tiens, je vous paye, laissez-moi tranquille. » Là, à ce moment-là, le propriétaire initial ne peut plus récupérer le champ. Donc, ça s'appelle en hébreu « micro-kayam », la vente est valable. « Lakar minaïch vechazar velakar minaïcha ». Alors, le din sera le même pour une personne qui a acheté un terrain que le mari avait dédié pour la kituva de sa femme. C'était le cas à l'époque. D'accord? Aujourd'hui, on ne le fait plus, mais à l'époque, il y avait des femmes, quand ils se mariaient, qui disaient « Je veux une garantie que si on divorce, t'as de quoi payer. » Parce que c'est facile de mettre beaucoup d'argent sur la ketouba, mais s'il n'y a rien derrière, je veux une garantie. Donc, qu'est-ce qu'on prenait comme garantie? En général, la pratique de l'époque, c'était pas obligé, mais la pratique, c'était que les gens mettaient un terrain de côté. Un terrain qu'ils utilisaient. C'était pas un terrain qui faisait fructifier, mais ce terrain-là, on ne pouvait pas le vendre. On ne pouvait pas le vendre parce que c'était un terrain qui était réservé pour la ketouva de la femme. Maintenant, ça arrivait des cas dans lesquels, malheureusement, on n'avait plus d'argent à la maison, donc il fallait vendre le terrain. Alors là, à ce moment-là, le mari disait à sa femme, il dit, écoute, je t'en prie, bon, tu sais pas, au Hachem, on est bien mariés, on risque pas de divorcer, mais le terrain, il faut qu'on le vende. D'accord ? Mais vous comprenez qu'il y a aussi des jeux de pression ici. Peut-être que le mari a mis la pression sur la femme et que la femme ne voulait pas. Donc en vérité, c'est le mari ici joue un peu le rôle de Sikricon. Ah oui. Le mari va jouer un peu ici le rôle de mafieux. Il dit, écoute, si on ne vend pas le terrain, il y aura rien à manger. Donc, Lakar Minaïch, Vechazar, Velakar Minaïcha. Si il a acheté d'abord le terrain du mari, mais c'est un terrain qui était réservé pour la femme, au cas où il divorcerait. Vechazar, Velakar Minaïcha. Et après, ensuite, il dit, bon, c'est un terrain qui était réservé pour la femme, je vais aller voir la femme. Et il est parti voir la femme, il dit, voilà, je vous donne de l'argent de côté pour vous. Au cas où, d'accord, vous divorcez, voilà, l'argent est là. Donc oui, il a payé deux fois son terrain. Micro-battel, d'accord, micro-battel, la transaction est annulée. Ça veut dire que dès que la femme divorce, elle peut récupérer son terrain sans état d'âme. Pourquoi? Parce que la femme peut dire, si je vous ai laissé prendre le terrain, c'est parce que je voulais problème chez l'imbaït. Je voulais pas m'accrocher avec mon mari. Mais en vérité, je n'étais pas d'accord. Vous savez ce que peut faire chez l'imbaït? Je voulais pas m'accrocher avec mon mari, mais en vérité, je voulais jamais le vendre, ce terrain. Par contre, donc, bien sûr, elle devra rendre l'argent qu'elle a reçu.
Ah oui.
C'est sûr, ça. Donc, de l'autre côté maintenant, Minaïcha Vechazar Velakar Minaïch, si maintenant il a acheté d'abord le terrain de la femme, et après il a acheté le terrain du mari. Ça veut dire quoi, acheter le terrain de la femme? Ça veut dire, voilà, il vient voir une femme, il dit, écoutez, madame, vous savez le terrain, votre terrain là, qui est réservé pour votre ketouva. Bon, bah, au Hachem, ça va bien avec votre mari. Donc je vous propose de vous acheter le terrain, d'acheter votre accord, parce que si vous ne donnez pas l'accord, ça ne marchera pas. Combien vaut le terrain? Le terrain vaut 100 000 euros. Ok. Je vous propose, je vous donne 40 000 euros à vous, en espèces. Et après, le terrain, je paye 100 000 euros à votre mari. Je vous donne 40 000 euros en espèces maintenant,
voilà, c'est votre ketouba.
D'accord? C'est votre ketouba pour votre accord. De toutes les façons, vous n'allez pas divorcer avec votre mari. Vous avez gagné 40 000 en espèces. D'accord? Donc, si maintenant il a acheté, sans que votre mari le sache, il lui dit. Voilà, sans que votre mari le sache, je vous donne, et quand votre mari vous pose la question, vous dites oui.
Il n'a pas acheté la femme, il a acheté la femme.
Oui, mais la femme a acheté.
Alors, peut-être c'est une femme qui a acheté, hein.
Non, c'est une femme. Mais c'est une femme qui est indissociable, c'est-à-dire que s'il va voir le mari après pour lui dire, voilà, finalement j'ai eu un accord, j'ai libéré, le mari ne veut pas vendre.
Ah, oui.
Sur les 40
000. Oui, d'accord. Non mais il dit, écoutez, j'ai parlé à votre mari,
non,
j'ai parlé à votre mari, et votre mari est prêt à vendre, mais il m'a dit que comme le terrain est réservé pour vous, il ne veut pas le faire.
On a signé un protocole après, le paiement, il vient.
Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Si il a vendu, donc Minaïcha, si d'abord il a acheté, c'est-à-dire il a reçu l'accord de la femme, Vechaza Velakar Minaïcha, ensuite il a acheté du mari, Mikrokaya. Là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on nous dit? Mikrokaya, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est ok? Bah oui, c'est logique. Qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Elle nous dit Zo Mishnah Rishona. Ça, c'était la première Mishnah. Ça veut dire, ça, c'était la première manière de voir les choses. Très rare qu'on dise ça dans une Mishnah. En général, une Mishnah, c'est sans équivoque. Là, la Mishnah, elle nous apprend un din. Elle nous dit, ça, c'était la première manière comment on faisait les choses.
Ouais, après, ça a changé.
Bet Din Shalacharem Amrou. Le Bet Din qui est venu par derrière, ils ont dit non. Nous, on n'est pas d'accord. Ils ont dit Aloker Misikrikon. Celui qui achète d'un Sikrikon. Donc, celui qui achète du mafieux. Noten le Balim Revia. Il a l'obligation de donner tout de suite au propriétaire initial, Revia, un quart de la valeur du terrain. C'est-à-dire comme ça. Il y a un mafieux qui vient qui me prend ma voiture. D'accord? Il dit, voilà, votre voiture, monsieur, elle vaut 20 000 euros. Il y a un mafieux qui vient qui prend la voiture. Très bien. Il a pris la voiture. Ce mafieux, il revend la voiture à quelqu'un. Cette personne-là sait qu'il achète un mafieux. Qu'est-ce qu'ils ont instauré les Chachamim? Les Chachamim, ils ont instauré que dès que tu découvres que tu achètes un mafieux, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un quart de la somme, donc 5000 euros, et tu les reverses tout de suite au propriétaire initial. Alors, c'est la bonne question, parce que de toutes les façons, on est dans un état de... Il y a une telle pagaille dans le pays, que de toutes les façons, le terrain ne reviendra jamais chez le propriétaire initial. D'accord?
Bon. Donc, on a trouvé.
Donc, Bet Din Shalacharem Amrou, Alokar Misikrikon, celui qui achète un Sikrikon, Noten Ibalim Revia. Il a donné au propriétaire Revia, ça veut dire un quart de la valeur D'accord ? Un quart de la valeur du terrain. Pourquoi ? Alors, écoutez bien pourquoi. Parce que les Chachamim ont estimé, hein, que, et ça c'est quelque chose que, très fort, qu'un mafieux, quand il vend un terrain, il ne va jamais vendre le terrain à sa vraie valeur.
Puisque c'est pour toucher l'oreille. Voilà,
exactement.
C'est une rapide.
Comme une voiture volée, d'accord ? On ne la vend pas au prix de l'Argus.
Ben, non.
D'accord ? On
la vend au prix de l'Argus. Le terrain est un otage.
Elle est tombée du camion, la marchou.
Ouais, le terrain est tombé du camion.
On la vend moins cher. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim ? Les Chachamim nous disent, première chose, dès que tu reçois le terrain, tu crois que tu as acheté un terrain comme ça, il vaut 100 000 euros, tu l'as acheté...
20 000.
D'accord ? Pas 20 000 quand même, d'accord ? Mais il vaut 100 000 euros, tu l'as acheté 66 000, tu crois que c'est comme ça ? 66 000, virgule, 66, 66, d'accord, on s'arrête jamais. Tu crois qu'on va... Tu crois que c'est comme ça qu'un terrain, il vaut... C'est pas normal. L'argus, c'est 100 000 euros. Comment tu crois que tout d'un coup, tu l'as payé pas cher ? Qu'est-ce que tu fais avec les 33 000 euros que tu as gagné ? 33 000 euros que tu as gagné, tu le reverses au propriétaire initial. Pas aussi cricole.
Mais il est quand même spolié.
Et ma taille, Bismal, Chen, Beyadam, Likar. Dans quel cas on dit ça ? Dans le cas que le propriétaire initial ne peut pas récupérer son champ. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi. Voilà, il y a les Allemands, maintenant il n'y a pas de loi. Aval, mais, Yesh, Beyadam, Likar. Mais si maintenant la loi est revenue et qu'on a la possibilité de récupérer le terrain, c'est-à-dire que le mafieux lui a pris, mais que bon, maintenant la loi est revenue et qu'on peut récupérer le terrain, qu'est-ce qu'on nous dit ? En Kodmin, Lecholadam. En Kodmin, Lecholadam, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si l'acheteur il vient pour racheter son champ, d'accord, En Kodmin Lechol Adam, qu'est-ce qu'il lui dit? En Kodmin Lechol Adam, ça veut dire que il passe avant tout le monde. Ça veut dire comme ça. C'est un cas intéressant qu'on a ici. Imaginez-vous que quelqu'un me vole mon champ. D'accord? Quelqu'un me vole mon champ. Donc un cicricone, un mafieux, il vient, il me vole mon champ. Ensuite, il y a Monsieur Bismuth qui vient par derrière. D'accord? Et il y a le cicricone qui lui propose, je lui dis voilà, je vous propose un champ en dessous de la table comme ça.
Bonne affaire.
D'accord ? C'est bonne affaire, 50 000 euros.
Yeah.
Monsieur Bismuth, il achète. Puisque la différence qu'il y a entre les 50, puisque la différence qu'il y a entre la valeur qu'il a payée, entre le prix qu'il a payé, la valeur du champ est 50 000 euros, donc Monsieur Bismuth a l'obligation de me payer 50 000 euros. C'est obligé. Le basin est instauré.
Logique.
Très bien. Si maintenant, moi je viens, je dis à Monsieur Bismuth, je dis écoutez, ne me payez pas 50 000 euros, c'est moi qui vais vous payer 50 000 euros et vous me rendez le champ. Est-ce que je peux faire ça ?
Bah oui, les 50 000 que je vais donner au...
Non, d'accord. Là, alors, je vous rends les 50 000 que vous avez payé au Cricode.
Ah d'accord.
Ah oui.
Ah, ce serait une grande mythe, là.
Je vous rends les 50 000 que vous avez payé au Cricode. Et donc, rendez-moi le champ.
Je veux quand même un petit...
D'accord.
Attends, j'ai sorti de l'argent, j'ai pris des risques. Donne-moi 50 000.
Alors, voilà ce qu'on nous dit comme ça. Si, SB Adam Lika, si, ils n'ont pas la possibilité de... C'est-à-dire, si, moi, je n'avais pas la possibilité légalement de récupérer le terrain.
40.
Donc là, dans ce cas-là... Qu'est-ce qu'il me dit, Monsieur Bissou ? Monsieur Bissou me dit, écoute, de toutes les façons, ton terrain, t'aurais pu l'oublier, d'accord ? Donc, je suis déjà gentil que je te donne 50 000 euros, prends-les et tais-toi. Mais si, légalement, j'ai maintenant la possibilité de récupérer mon terrain, j'ai le droit de déposséder Monsieur Bissou du terrain, par contre, en lui payant 50 000 euros. Je lui donne 50 000 euros, je dis, voilà, combien vous avez payé au mafieux ? 50 000, je vous les paye. D'accord ? C'est ce que dit la Mishnah. Donc, ça c'était donc, une nouvelle jurisprudence.
J'ai une question, là.
Attendez, on finit la Mishnah. Rabbi, d'accord ? Donc quand on parle de Rabbi Yehuda Anassi. Oshiv Beddin. Rabbi a placé un Beddin pour juger de ce cas-là. Apparemment, c'était un cas qui arrivait souvent. C'était un cas d'école. Venim nou. Et ils ont décidé la halakha suivante. Chez Im Sha'ata Bifnestikrikon Shnamasa Chodesh, que si le champ est resté chez le mafieux pendant 12 mois, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à vendre son terrain, d'accord ? Kol HaKodem Likar. Kol HaKodem Likar, ça veut dire que tout celui qui devance pour acheter, c'est-à-dire le premier qui achète, Zoché, il mérite. Ça veut dire que si M. Bismuth il a acheté au bout de 12 mois, d'accord, on m'oublie à moi. Monsieur Bismuth dit, écoute, t'avais 12 mois.
T'étais peut-être en prison.
Ouais, c'est pas un problème.
Sympa, quoi.
Rabbi Udanassi a instauré, d'accord, que s'ils sont passés 12 mois, c'est sans équivoque.
Quand il était esclave attention, dans les arènes de...
Bien sûr que, d'accord, Ava, Notel Ibali, Revia. Bien sûr qu'il faudra payer. M. Bismuth aura l'obligation de me payer un quart. Pourquoi il aura l'obligation de payer un quart ? Parce que nous, on ne sait pas combien vous l'avez acheté chez le mafieux. On ne sait pas combien vous l'avez payé. Alors, peut-être vous l'avez payé 50 000, peut-être vous l'avez payé 20 000. Donc, les Chachamim, ils ont dit,
un quart de quoi ?
Nous, on a
de
la valeur du terrain. D'accord. Donc, les Chachamim ont estimé, ils ont fait donc des statistiques, ils ont vu qu'en général, un mafieux, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, quand il vend un objet volé, il le vend un quart moins cher.
La casse. Ouais, ils sont bien les mafieux.
Un quart de sa valeur.
Comme avant, c'est 10% du prix.
Combien il les vend aujourd'hui ?
10%
du prix. Maintenant, n'oubliez pas qu'on est dans un régime mafieux.
Ils volent des terrains.
On est en Russie, là.
Ils volent des bijoux, ils volent des...
On est en Russie, là, Monsieur Bismuth. On n'est pas en France. D'accord, ça veut dire que...
Les bijoux volés...
C'est-à-dire qu'on peut revendre un objet volé devant tout le monde.
10%.
10%
Non, de sa valeur.
Non, je crois pas.
Ça, ça fait de la recelle et c'est sous le manteau et après ils mettent.
Non, c'est pas sous le manteau là.
Il a l'air de bien connaître.
Parce que c'est pas de l'objet.
Il a l'air de bien connaître.
C'est du mobilier, hein. C'est pas du mobilier.
Ah non, 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 le Secret-Con, c'est pas sous le.
Oui, parce que c'est, là c'est de l'immobilier.
Vous savez, je suis curieux de savoir. Vous savez, en Russie par exemple, ils vous vendent dans les marchés, ils vous vendent des CD contrefaits.
C'est en Israël aussi.
Mais c'est pas caché, hein, c'est pas sous le manteau comme en France. C'est devant tout le monde. Je suis curieux de savoir à combien ils les vendent. Ça veut dire à combien de la valeur initiale ils vendent.
En Israël, tu vas rue Ben Yehuda, t'as des stands de films et de musique dupliqués.
Un euro.
Ça coûte un dollar et demi. T'as les derniers films, les derniers disques qui viennent de sortir.
Intéressant. Bon, alors
ça suffit, ça pue la pizza maintenant.
Oh, Ravi devrait réviser la copie.
C'est vrai.
Aujourd'hui, on devrait réviser la copie. Parce qu'à l'époque, en tout cas, c'était un cas. D'accord. Alors, Kheresh. Maintenant, on passe à la Mishnah Zayin. On finit avec la Mishnah Zayin.
Attends, elle avait dit.
Oui.
Un an.
Comment on peut dire tous ces trucs-là, puisqu'on dit qu'il n'y avait plus de loi, il n'y avait plus de machin. Alors, comment il y a un Bédin qui dit, puis après le Bédin d'après, ouais, et puis Rabbi dit. Puisqu'on dit qu'il n'y avait plus de loi.
Parce qu'on a eu des hauts et des bas. Il y a eu des moments dans lesquels la loi est partie, dans lesquels la loi est revenue.
Elle est revenue, oui, c'est ça.
Bah oui. Bon. Vous savez, malheureusement, on voit ça encore dans des pays
pas stables.
Dans des pays comme ça qui sont pas stables. On voit qu'il y a selon le régime, des fois il y a la loi, des fois il n'y a pas la loi, des fois en quelques années ça peut changer.
Quatre saisons.
En Afghanistan, regarde.
Kheresh, Romez, Venirmal. Alors.
Mélangé là.
D'accord. Là c'est mélangé là. Hein. Kheresh, Romez, Venirmal. Kheresh, donc c'est quoi Kheresh? Kheresh, c'est un sourd muet. Donc c'est quelqu'un qui n'entend pas et qui ne parle pas. Romez, venir mal. Il peut... Alors on va parler maintenant du sourd muet. D'accord. Romez, venir mal. D'accord. Ça veut dire que le problème qu'on a, c'est que lui, il peut pas parler. Il peut pas parler, il n'entend pas. Donc lui, il aimerait faire des transactions. D'accord. Mais des fois, il peut faire... Peut-être des fois que la seule manière qu'il peut s'exprimer, c'est avec ce signe. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que les signes... D'accord. Donc il est devant le bedding, il leur fait un signe.
Il
leur fait un signe avec sa tête pour dire dites que j'accepte.
Mais
et après il part derrière, d'accord. Il y a sa mère qui vient par derrière, il dit non, mon fils il a jamais vendu. Vous l'avez forcé.
Un fils il a jamais vendu.
D'accord. Il a jamais vendu. Alors est-ce que c'est valable? Est-ce que le kheresh, est-ce que les signes kheresh sont valables? Est-ce qu'on considère que c'est?
On a dit que c'était pire que tout.
Alors kheresh, romez, venir mal. Écoutez bien ce qu'on dit ici, que le sourd muet, d'accord. Romez venir mal, ça veut dire qu'il peut faire des signes à d'autres personnes avec ses mains ou avec sa tête, et de même, d'autres personnes peuvent lui faire des signes. Et tout ce qui a été fait par les signes est considéré est valable comme une parole. Ou Ben Betera Omer, Ben Betera il dit, c'est pas seulement avec la main et la tête, mais même Kofet Venikpat. Kofet Venikpat, ça veut dire, des fois, les sourds muets, ils peuvent pas parler, mais ils arrivent à bouger les lèvres, d'accord? Et ils peuvent formuler certaines phrases.
Mais, ceux qui bougent les lèvres, c'est ceux qui sont pas sourds.
Oui. Alors qu'en fait, Zenikpat nous dit, attention, nous dit Ben Betera, nous dit que même les gens qui sont sourds, d'accord, ils arrivent à bouger les lèvres pour dire oui ou pour dire non, par exemple. Ah, d'accord, ils bougent les lèvres. Est-ce que ouvrir la bouche ou bouger les lèvres, est-ce que c'est suffisant? Oui. Ben Betera a dit, ça aussi c'est suffisant.
Oui.
D'accord. Alors, mais attention, c'est valable uniquement des Mital Telim. C'est valable uniquement dans une transaction, pour une transaction qui a été faite sur du mobilier.
Oui.
D'accord? Mais sur de l'immobilier, ce n'est pas valable.
Non.
Ouais, sur de l'immobilier, ce n'est pas valable.
C'est du gros.
D'accord? Voilà. Alors.
Parce qu'on
considère que l'immobilier, c'est quelque chose de trop gros. C'est quelque chose de trop gros. Il faut une valeur sûre. Il faut qu'il écrit ou il faut, mais c'est pas suffisant. D'accord? À Paoutot, les enfants. Alors, les enfants, ça veut dire quand on parle des enfants qui ont l'âge de 6 ou 7 ans. Enfin, plutôt de 7 ou 8 ans, je finis, monsieur Benichou, d'accord, qui ont l'esprit assez aiguisé, d'accord,
d'accord.
Apaoutot, vous n'avez pas Apaoutot?
Non.
Si, Apaoutot, vous avez. Apaoutot.
Mais si, c'est là, Apaoutot.
D'accord. Donc, Apaoutot, les enfants. Donc, les enfants qui ont l'âge de 6, donc de 7 ou 8 ans. Si c'est des gens qui ont l'esprit assez aiguisé, d'accord. Vous savez, il y a des enfants, des fois, depuis 7 ou 8 ans, ils sont très bons en affaires. Dans le troc, ils sont très très bons. D'accord? Ou bien, si c'est un enfant qui n'est pas bon en affaires, il faut attendre l'âge de 9 ou 10 ans. Là, à partir de l'âge de 9 ou 10 ans, on estime que tous les enfants, ils ne sont pas à voir facilement. Donc, Mikran. Alors, peut-être faudra revoir la copie aujourd'hui, parce que ça, c'est la Gemara qui a estimé selon les réalités de l'époque.
Ouais.
D'accord? Faut savoir qu'à l'époque, les enfants étaient dans les affaires depuis l'âge de 6 ans. Bon, aujourd'hui, on est préservé. Aujourd'hui, même à 16 ans, il y en a qui se font avoir.
Ils sont sur Internet.
D'accord.
Ils sont dans le souk.
Aujourd'hui, à 16 ans, ils sont sur Facebook.
Ils regardent des dessins animés.
Donc, à Pautot, Mikran Mekar ou Mimkaran Mekar Mitalteling. Donc, les enfants, d'accord, un enfant qui vend quelque chose, il a reçu un cadeau pour Hanouka et il revend son cadeau.
Il a raison.
Il revend son cadeau à un adulte. Après, il y a le parent qui vient pas derrière, il dit, ah non, mais... Il dit, la transaction de mon fils n'est pas une bonne transaction. Alarchiquement parlant, il faut savoir que dans tout ce qui est mobilier, d'accord, la transaction d'un enfant et l'achat d'un enfant sont une transaction. C'est-à-dire qu'un enfant, il vient dans un magasin, il achète quelque chose. Après, le père lui a dit, non, mon fils, il n'a pas acheté, mon fils, il n'est pas assez mûr pour acheter. Ça marche pas, monsieur. Tant que c'est un métal téline, ça veut dire que c'est du mobilier, la transaction est valable.
Et si on lui fait crédit, tu veux dire?
Oui, bien sûr. C'est valable.
Il paye.
Il y a des magasins.
Généralement, un enfant, il est content.
Il y a des magasins. Je sais pas. Il y a des magasins en verre.
Il est content.
Il y a des magasins en verre dans lesquels on fait crédit. On fait beaucoup crédit pour la nourriture.
C'est
vrai. Ben les enfants, ils viennent, ils achètent. Personne ne peut dire oui, c'est pas moi, c'est mon fils.
Non. Moi, je les attaque. Moi, je veux que mon fils il vienne diabétique. Je vous attaque.
Alors, on peut interdire. Tu dis, si mon fils il vient, ne le vendez pas. Voilà. Mais dans tout ce qui est mobilier, la transaction est valable. Voilà, on s'arrête ici pour aujourd'hui.